France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, contente de vous retrouver pour cette nouvelle balade dans le rétro. Moi c'est Déborah Grunewald, peut-être qu'on se connaît pas encore. Alors chaque semaine, on part en voyage avec un invité. On parle du passé pour comprendre le présent et se projeter dans le futur. C'est d'ailleurs ce qu'a fait notre invité en publiant son autobiographie. Succès, échec, doute, remise en question. Ces questionnements de toute une vie qui se posent. Aujourd'hui, nous sommes avec un animateur producteur, créatif indocile. C'est une icône ménagère, il est chiant. Enfin, il l'était, il est couillon et honnête. Mon invité aujourd'hui, c'est Christophe de Chavannes, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Salut le blaireau.
De qui s'agit-il?
Alors c'est... le blaireau.
Bonjour mademoiselle.
Non mais c'est le blaireau, c'est Gainsbourg. On est d'accord parce que je me permettrai pas. Créatif indocile, icône ménagère, chiant, couillon, c'est vous qui le dites dans votre livre.
De moi-même, oui.
Donc vous m'en voulez pas?
Pas du tout. Quand c'est moi-même, c'est mieux quand même. Enfin, c'est moins agressif.
Alors sinon, j'aurais pu dire salut mon petit rat.
N'importe quoi. Non, mon petit rat, c'était comme m'appelait une fiancée quand j'avais 18 ans. Bon, c'est mignon, mon petit rat. Oui, à 18 ans, c'est mignon. Elle était très sympathique. Véronique, tiens. Je la salue si elle nous entend 92 ans.
Bon.
En plus, c'est possible.
C'est vrai ou pas?
Ah oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai.
Ah ouais.
J'étais sorti avec elle, parce qu'en fait, j'étais amoureux de sa sœur. Et je suis sorti avec sa sœur, qui m'a largué au bout de très peu de temps pour retourner avec son ex. Et moi, j'étais amoureux comme un ouf. Et donc, je suis sorti avec sa sœur pour voir sa sœur. Et en fait, je suis tombé amoureux de la sœur. Je suis resté, je sais pas, 4-5 ans.
Ça va.
Ah oui, une vraie histoire. Oui, le début est tordu.
Oui, un peu.
Mais ce qui compte, c'est la fin.
Christophe de Chavannes, le livre, c'est sans transition. On va pouvoir le parcourir tout au long de l'émission, puisque vous revenez sur votre vie et votre carrière.
Et que nous avons une émission de 4 heures.
Tout à fait.
Mais oui.
On va parler de l'homme, du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Presque. Vous n'avez pas soif, vous?
Vous avez soif?
Non, je vous demande si vous n'avez pas soif.
Bah écoutez, non, ça va, non, j'ai ça eu le temps de boire en vous attendant.
Ah, très bien. Ben moi, je pouvais pas boire.
Est-ce
en courant.
Est-ce qu'on pourra avoir un petit truc à boire?
Ouais, ce serait gentil, ouais. De l'eau, un verre d'eau. Même les chiottes, hein, c'est pas grave.
On dit, Christophe de Chavannes, qu'écrire un livre, ça peut être une thérapie. On découvre que vous cumulez 20 ans de psychanalyse. Vous soumettez l'idée, et c'est super intéressant, que ce serait une belle avancée pour les enfants et les ados d'aujourd'hui d'aller faire un tour chez le psy.
Ah oui, je suis très militant de ce truc-là.
Ouais, si les ados s'y rendaient en amont, peut-être vivraient-ils leurs troubles de façon moins brutale.
Bah, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous des boulets à traîner à un moment donné. Et il y en a qui en ont des très très gros, qui leur font faire même de très très grosses bêtises. Et donc, je me disais que ça pouvait être pas mal une petite visite d'une demi-heure, une heure en préadolescence, un truc organisé par l'État, que ce soit gratuit, et qui pourrait éventuellement déceler chez un gamin une détresse telle qu'elle pourrait faire un drame plus tard.
Ouais. Vous auriez aimé,
même
vous,
pour lui.
Ça vous arrive plus?
Non, parce que j'ai pas eu des troubles d'ado autres que les troubles à peu près normaux. J'ai pas eu de mal-être à ce point-là. J'étais juste plus, vous voyez.
Plus quoi?
Vous voyez?
Bah non.
Eh bah tant pis.
Non, plus quoi?
Non, tant pis.
Mais plus?
Bah plus, vous voyez.
Oh, vous le direz un peu plus tard dans l'émission,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, okay. Quand il fera nuit.
Plus chaud?
Aussi. Allez, arrête l'autre.
Sans transition.
Aucune.
C'est l'autobiographie de Christophe de Chavannes aux éditions Flammarion. C'est cash, c'est doux, c'est touchant. C'est une autobiographie qui montre aussi les incidents de parcours, les coups de chaud, les pétages de câbles. Et ça rend le personnage humain, sincère. Ce sera peut-être pas la vie de tout le monde, mais comme disait Christophe de Chavannes dans son émission sur France 3, on ne peut pas plaire à tout le monde.
C'est pas moi qui le disais.
Je
hein.
sais, j'ai
ah,
fait
c'est
exprès.
C'est drôle. Mais vous devriez faire du one man, enfin,
bah ouais.
One woman en
bah
l'occurrence.
Ouais, pourquoi ouais. pas.
Oui. Non, c'était le titre d'une émission de Marco Fogel qui était très bien d'ailleurs.
Ouais. Christophe de Chavannes, vous restez avec nous?
Bon,
on verra.
Je sais pas, c'est long.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps.
Oui. Bonjour. Nous sommes un habitant de la Bandicnia. Oh, ma cassette, Nicole. Chut, que je te dis.
Vous naissez à Paris.
Paf.
Au secours. Vous naissez à Paris. Votre père travaille dans l'immobilier. Votre mère est journaliste. Enfant, il ne fallait surtout pas vous plaindre. En gros, ça revient à dire qu'il ne fallait pas manifester ses émotions et ses douleurs. Ça peut faire des dégâts,
c'est,
ça.
C'est pas qu'il ne fallait pas. C'était qu'il. C'était. Bah pas trop, non, parce que d'abord la vie est quand même plutôt belle par rapport à la majorité des gens de la planète, déjà. Et donc, voilà, c'était pas non plus la schlag et un coup dans la gueule si je me plaignais. Mais moi, je suis un peu... Je me plains un peu, hein, quand même, tout le temps. Donc, c'était pas plus mal de me dire, arrête de te plaindre.
On part maintenant en 1975, Christophe de Chavannes.
Et j'ai 8 ans. Car je suis né en 1972.
Christophe de Chavannes, vous grandissez à Montmartre, à Paris, rue des Saules. Votre chambre est au troisième et dernier étage. En bas, vos parents se disputent. Vous avez 17 ans.
Non, mes parents ne se disent pas pute. Mes parents s'engueulaient, je suis désolé, ça, je sais pas où vous l'avez lu, mais non, mes parents ne se disent pas plus, parce que ça, ma mère l'aurait pas supporté, et mon père, c'était pas le genre, donc non.
Vos parents s'engueulent.
Voilà.
Ça passe mieux. Vous avez 17 ans quand votre mère le met dehors. Votre papa est alcoolique.
Ah
dit
non,
comme
là
ça,
là
c'est
là
brut.
Là,
non, mais attends, mais laissez-moi terminer. Non, mais dit comme ça, c'est brut.
Alcoolo-dépendant, moi je dis.
Pourquoi pas dire alcoolique?
Parce que je pense que c'est beaucoup plus agressif de dire à quelqu'un, dis donc, tu seras pas un peu alcoolique, plutôt que de dire, peut-être un problème d'alcoolodépendance dont on peut parler. Voilà, c'est une maladie, il faut le traiter comme tel. Et les gens qui sont dedans, puis alors là vous faites un amalgame, je sais pas comment vous avez enchaîné tout là.
De quoi?
Mais je sais pas, c'était pas très.
Bah parce qu'on n'a pas le temps de revenir. Non mais on n'a pas le temps.
La phrase.
Bah la phrase c'est vous grandissez à Montmartre. À 17 ans vos parents se disputent.
Ben non, ils se disputent. Pourquoi à 17 ans ils se disputaient déjà?
Bah c'est ce que j'ai lu dans le livre.
Depuis longtemps ils se disputaient. Non, j'ai pas
dit
non, à
17
ans.
Ah non, mais si vous foutez en l'air tout mon décor.
Pardon,
et tout.
Mon chou, vas-y. Alors, à 17 ans, mes parents.
Non, mais vous grandissez donc à Montmartre, on est d'accord. Donc, dans cette chambre du troisième et dernier étage, vos parents se disputent. Mais j'ai envie de dire, comme beaucoup de parents, et quand on est enfant, on entend très souvent ses parents se disputer. Mmh. Et je parle effectivement de la dépendance de votre papa. Et c'est là qu'en fait, vos parents se séparent, votre maman en peut plus. Mmh. Et donc, il y a cette séparation. Et sans votre mère, votre père est perdu. Il est complètement déstabilisé. Mmh. Un jour, il pleure devant vous.
Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous arrêter maintenant. Pardonnez-moi, j'aurais dû vous le dire avant.
Ouais.
Mais tout ce qui est un peu costaud familialement et très intime surtout, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, en vrai. Et j'ai encore plus de mal à en parler. Donc, je me suis vraiment beaucoup penché sur je l'écris, je l'écris pas. Une fois que je l'écrivais, est-ce que c'est comme ça que je dois l'écrire? Enfin, ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail parce que c'est une intimité profonde. Et là, on en parle comme si on était au café du coin. Et là, je vous avoue que j'ai un peu de mal. Donc, tout ce qui est famille...
Ah bah, on est mal barré parce que c'est un peu le principe de l'émission de revenir sur votre livre.
Oui, dans le rétro, oui, mais il y a autre chose dans mon bouquin.
Sur votre enfance, sur vos parents, sur comment vous vous êtes construit, sur votre carrière, il y a plein de choses.
D'accord.
Et moi, partant du principe...
Comme c'est pas la base du livre, hein, la famille, ça...
Il y a quand même pas mal de choses.
Oui, je dis pas, mais je vous dis juste que j'ai du mal à en parler maintenant, voilà.
Non, mais je comprends que vous ayez du mal à en parler.
Je suis pas très à l'aise et je pense que les mots que j'ai à utiliser, j'ai fait le tour du vocabulaire que j'ai pour parler de tout ça et je l'ai mis dans le bouquin, c'est ça le truc. Mais j'aurais dû vous le dire avant. Ça, en revanche, c'est vrai. Comme ça, vous n'auriez pas articulé toute une scénette
autour de... Écoutez, Christophe de Chavannes, on va arrêter l'émission. Non, je déconne. Non, mais dites-moi alors, qu'est-ce que vous avez envie de partager?
Allez-y, c'est vous. Mais
bah non, parce que
votre
je vais
père est alcoolique, vos parents s'engueulent, qu'est-ce que tu veux que je dise, madame?
Bah non, mais parce que ça vous construit aussi, c'est pour ça qu'on en parle.
Mais...
Et parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui doivent certainement
Ne vous engueule pas, je vous dis juste que j'ai du mal à l'avoir écrit.
Se rattacher à ce que vous avez vécu.
J'entends. Mais alors, je vais faire un truc complètement con que j'aime pas faire, mais c'est dans le livre. Voilà, j'ai du mal à en parler, je vous le dis.
Ouais, non, mais ça se comprend, Il n'y a pas de jugement là-dessus, je comprends. Mais c'est vrai que, le fait d'avoir écrit cette autobiographie, nous, ça nous permet aussi de parler de comment vous en êtes arrivé là, de ce que vous avez vécu. Dans ces moments-là, les gens aussi qui nous écoutent peuvent se reconnaître, parce qu'ils ont grandi avec des parents qui se sont séparés. Donc c'est ça aussi le but d'en parler. Après, si vous me dites que c'est trop douloureux pour vous, on en parle pas.
Non, je dis pas que c'est trop douloureux. Je dis que je sais pas bien en parler, que j'ai déjà eu du mal à l'écrire, voilà. Et puis alors vos parents s'engueulent, vous avez 17 ans, votre père est alcoolique et nanana. Honnêtement, je sais pas quoi répondre. Tu vois ce que je veux dire? Mes parents, ils sont engueulés toute ma vie, donc non, pas à 17 ans. Ils sont beaucoup disputés.
Non, mais je me permets d'en parler parce que vous en avez parlé. J'aurais pas eu cette impudeur si vous n'en aviez pas parlé.
J'aurais dû vous dire. C'est pour ça, je l'ai dit 5 fois. Je veux bien vous le dire. J'aurais dû vous dire avant. Je suis pas à l'aise sur la famille, voilà.
Christophe de Chavannes, vous restez avec nous? Il y a d'autres étapes dans ce voyage.
Ce que je vous dis, je le dis peut-être pas bien, mais c'est très sincère. Je répondre aussi froidement comme ça à une question comme celle-là, d'ailleurs, je ne sais pas quelle était la question, en vrai.
La question, c'était de voir son père pleurer. Qu'est-ce que ça réveille, en fait, tout simplement? On n'a pas l'habitude de voir un père pleurer. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur d'un enfant de voir son père pleurer? C'était ça la question.
J'aurais tendance à vous dire à votre avis. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on parle d'autre chose. Je vous assure.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Allez, on continue notre voyage dans le Paris des années 70. « Nous voici dans la basilique du Sacré-Cœur. Vous faites partie de la chorale. Il y a là votre maîtresse et bonne sœur, mademoiselle Raspail. Bon, ça sent un peu la transpette. Mais à la radio, ça s'entend pas.
Non, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit qu'elle cognait un peu de l'aileron.
C'est charmant.
Non, mais c'était notre maîtresse, notre prof, qui était une bonne sœur et qui nous mettait à genoux sur l'estrade quand on déconnait. Donc j'allais souvent au bord de l'estrade. Quand elle était contente, elle nous faisait des gros hugs. Et je me rappelle très bien, elle avait une espèce de polo en acrylique avec en col V. Elle était très costaud. Et quand elle nous prenait dans ses bras, on avait la tête enfouie dans ses seins. Et ben, on avait 10 piges, hein. Et puis, il n'y avait rien d'excitant là-dedans, hein. Et peut-être que les déos n'existaient pas à cette époque-là. Mais c'est un souvenir prégnant. Vous savez, la madeleine des odeurs, elle est dingue. Quelquefois, ouais. Moi, je croise des gens qui ont un parfum qu'avait ma grand-mère, que j'ai pas senti depuis 20 ans. Et tout d'un coup, bim, ça remonte, voilà. Et j'avoue que cette odeur-là, qui n'est pas le guerlain de l'époque. Voilà, c'est un souvenir. Et ça m'a toujours marqué, parce que quand je sens quelqu'un qui cogne de l'aileron, je me dis « Ah, mademoiselle Raspail !»
Il y a des réminiscences. Ouais. Éducation religieuse
Non, oui, non, école religieuse. Maintenant, ouais. Éducation religieuse, oui, un poil, oui.
Vous avez gardé quelque chose de cette éducation
Non.
Télétransportation, oui. On y retourne.
J'y vais.
Accrochez-vous.
Ouh.
Ah, vous le faites vachement bien.
Ouh, ploump, je viens de poser mes pieds. Je suis télétransporté.
Christophe de Chavannes, nous sommes au 24 rue du Général Foy, dans le 8e arrondissement.
Non,
c'est
non,
le lycée Fénelon Sainte-Marie.
Non, là on Quoi? Est au 88.
Non, mais vous cassez la magie.
Ça a été assez le bordel pour que je vienne, que je me fasse engueuler en bas en disant ben, vous voyez bien qu'il y a marqué Radio France. Non, c'était pas marqué Radio France, donc je suis venu quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais très bien où je suis. Je suis rue du Général Foy, au 24. Et qu'est-ce qui se passe-t-il?
C'est lycée Fénelon.
Oui, c'est
Sainte-Marie.
Cours Fénelon.
On va ouvrir cette porte. Nous sommes en classe. Vous êtes un enfant agité, speed. À l'époque, on dit des enfants agités qui sont mal élevés, que ce sont des sales gosses, des bons à rien. Mmh. Aujourd'hui, on découvre que certains sont hyperactifs. Ça s'appelle TDAH. Mmh. C'est un trouble du neurodéveloppement, trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité. Est-ce que vous avez ça ou pas?
Parce que si
vous
je me faisais détester.
Détester?
Si je me faisais dépister, oui, je pense, oui. Oui, je pense. J'ai du mal à me concentrer. Je suis un peu sur tous les fronts.
Hyperactif, quoi.
Hyperactif un peu. Et maintenant, c'est hyperactif, un peu, en avançant dans l'âge.
C'est pas mal.
Non,
non
mais
plus.
Ça reste actif quand même.
Et enfant? Difficile ou pas? Parce qu'effectivement, on passe pour le sale gosse, pour.
Non, je vais vous dire, parce que j'ai un enfant qui a ses problèmes. Mais je veux dire, j'en ai parlé à plein de copines qui ont des mômes. Les mômes ont été testés TDAH et diagnostiqués TDAH. Et la mère a fait le truc et elle aussi. Donc,
en général,
c'est un
génétique.
Peu à la mode. Oui, mais c'est un peu aussi à la mode. Ça,
non, faut pas dire ça, parce que les gens qui ont vraiment des troubles TDAH,
oui,
c'est pas une question de mode. Hein.
Je veux dire que le mot TDAH.
C'est diagnostiqué quand même.
Oui, c'est diagnostiqué, mais à plus ou moins forte importance. Je trouve pas le bon mot. Je trouve aussi que pour certains TDAH, il y a des prises de médicaments immédiates qui sont très fortes et qui sont pas forcément utiles sur la très 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 longue durée, parce que c'est un truc, le médicament auquel bêtement on peut s'accrocher. Je m'en suis très bien sorti sans médoc, c'est ça que je veux dire.
Est-ce que c'est devenu une force finalement? Est-ce que d'une difficulté, ça peut devenir une force, ou ça a quand même été compliqué à chaque fois?
Oui, c'est une force parce que hyperactif, c'est hyperactif. Bah, c'est moins chiant qu'un hyperpassif. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plus rigolo. Parfois, il faut un peu lutter contre. Et puis parfois, vous ne pouvez pas lutter. Vous êtes en train de faire un truc et vous passez à autre chose. Pourquoi mon bouquin s'appelle comme ça? C'est parce qu'en fait, même dans mes conversations, j'avais une personne qui a beaucoup coûté dans ma vie, avec qui j'ai vécu plusieurs années, qui me disait régulièrement, en me regardant, sans transition. Donc, parce que je passe d'un truc à l'autre et les idées vont très vite. Et je pense que l'hyperactif, c'est ça. Hein. Problème de concentration, ou alors on se concentre sur un truc qui n'a pas grand intérêt. Ou alors sur un truc sur lequel il faut vraiment se concentrer, on lutte. Hein. Non, mais je pense que c'est intéressant aussi parce que ça permet d'avoir... j'essaie de trouver une image culinaire de deux escalopes qui cuisent en même temps ou un poisson. Il y a un œil sur le poisson, un œil sur la viande, vous voyez.
C'est poétique.
Bah oui, c'est culinaire.
Christophe de Chavannes, on va parler d'amour et de sexe maintenant. Téléportation.
Ah bah oui, j'ai bien fait de venir, moi.
Bah oui.
C'est souvent lié en même temps. Ah, Chris Rea.
Vous avez là 18 ans, vous êtes avec une fille dans votre lit, tous les deux nus, vous êtes un petit peu beaucoup excités, vous pensez que vous allez faire l'amour, mais elle vous dit non. Instinctivement, vous vous redressez et vous vous dites à voix haute, je suis pas un violeur. Vos parents, vous ont appris le consentement. Si vos parents ne vous avaient pas expliqué ça, vous auriez pu basculer dans une situation inappropriée.
En tout cas, le fait est que mon père m'a toujours dit, et puis la façon dont mes parents parlaient des femmes, mon père m'a toujours dit, on touche pas à une femme même avec une rose. Ça, c'est, pour moi, c'est une affaire réglée. Non, je pense que c'est tout un contexte d'éducation et de respect qui compte. J'ai quand même essayé, elle a dit non, j'ai essayé, elle a dit non. Et la troisième fois, je me suis redressé sur mes bras et j'ai dit, je ne suis pas un violeur. Et ça m'est sorti vraiment, pas aussi doucement que vous l'avez dit. C'était vraiment tout d'un coup une prise de conscience parfaite et qui a duré toute ma vie, ce qui est plutôt bien. Donc ça m'a permis de transmettre aux enfants.
Justement, ça se transmet la notion du non, le consentement. C'est les parents qui transmettent ça aux enfants.
C'est indispensable. C'est pour ça que j'en parle dans mon bouquin. Et si c'est pas des gamins qui lisent le bouquin, il y a peu de chances qu'il y en ait, que les grands-parents ou que les parents qui le lisent en parlent, parce que c'est il y a un nombre de femmes. Allez, je vais dire bousculé par semaine. Enfin, c'est incroyable. Donc, il faut vraiment que les jeunes gens aient cette conscience absolue et du respect total de l'autre personne. Voilà. Mmh. Moi, j'ai même pris un coup de ceinture par mon père, puisque vous parlez du bouquin, parce que j'ai fait poète-poète sur le sein de ma sœur qui traversait un couloir au mois d'août dans une maison d'été. Je peux te dire, il me l'a fait qu'une fois. Il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai compris. On fait pas poète-poète sur les seins d'une fille qui veut pas, même si c'est sa sœur.
Ben, y avait une blague aussi. 10 poète-poète.
Non, 10 camions.
10 camions, poète-poète.
Bah,
c'était de votre génération aussi.
La blague à l'envers.
Oui, bah, la blague à l'envers. Bon, bah,
oh,
pardon.
La vache.
Mais je peux couper au montage et dire la bonne vanne.
Ben non, puisque vous avez dit que vous coupiez rien,
c'est
et que c'était en direct.
On assume.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Christophe de Chavannes, vous travaillez d'abord dans l'immobilier. 1983, on vous découvre dans l'émission Super Défi sur TF1. Mm-hmm. Il y aura C'est encore mieux l'après-midi et Toute folle de lui sur France 2, puis retour à TF1, téléportation, destination la rue des Alouettes dans le 16e arrondissement de Paris. Ah, c'est pour les Alouettes ?
Ouais, il n'y en a plus d'Alouettes, quel drame.
Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, jusqu'à 18h, ben oui, justement. Donc c'est tout... Et je vais vous demander, puisque vous avez les mains toutes chaudes, de continuer à les chauffer pour accueillir Lio, qui est notre invité aujourd'hui.
Vous animez Panique sur le 16, en direct tous les jours. Au bout de 5 mois, l'émission s'arrête.
Ça, c'était Panique, ça ?
Ouais, ça, c'était Panique, okay. Ouais. Panique sur le 16, en direct tous les jours. Au bout de 5 mois, l'émission s'arrête. 36% d'audience, pas suffisant pour TF1. Quelques temps plus tard, vous avez rendez-vous...
À l'époque, aujourd'hui, ouais. 36, vous êtes le roi
du pétrole. Ah bah là, oui. c'est la teuf.
Ah ouais, on fait tourner les serviettes.
Quelques temps plus tard, vous avez rendez-vous au siège de la chaîne avec une nouvelle idée en tête. Je veux faire parler les gens. Quels gens ? Bah, ceux qu'on ne voit pas à la télé et qui mériteraient d'être entendus. C'est la naissance le 10 mai 1988.
Bon, elle a marqué la musique quand même. Hein.
Ah bah, énorme.
Ça me fait drôle de l'entendre.
Bah, hein. L'émission ouais, aussi, culte.
C'est rigolo, ouais.
Émission devenue culte Ciel Montmardi, le 6 février 90, vous organisez un débat sur le thème « Faut-il avoir peur de l'extrême droite ?» Sur le plateau, Olivier Mathieu, négationniste et néo-nazi, Pierre Sidos, figure de l'extrême droite pétainiste, Jean-Pierre Bloch de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.
On est en direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va. Tout le monde s'assoit.
Ils sont rien à voir.
C'est ouf.
Ouais, moi j'ai fait interdire ces images pendant 20 ans parce que ce moment, j'en étais pas très fier. C'était très violent et pendant une vingtaine d'années, j'ai refusé à ce que les images soient vendues. Elles ont fait le tour du monde à l'époque quand l'émission est.
Ouais, parce que je les ai trouvées sur Internet là.
Ah oui ?
Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes à qui il ne faut pas donner une tribune ou est-ce qu'au contraire, tout le monde a droit de s'exprimer ?
Non, mais là, vous allez chercher quand même le max
du
max.
Ah bah j'ai été chercher, ah bah oui.
Un truc... je vous dis, j'en étais pas très fier d'ailleurs. Hein. Sinon, si, je suis plus fier de La Fosse, où il y a aussi des gifles et tout ça, qui est une fausse émission. Est-ce qu'il y a des choses, pardonnez-moi la question, bah, c'était 2000.
Non, mais est-ce qu'il y a des personnes à qui il ne faut pas donner une tribune ou est-ce qu'au contraire, tout le monde a le droit de s'exprimer ?
Non, moi je suis pour, moi. En Belgique, par exemple... Ils ont un truc qui s'appelle la ligne rose, je crois, ou la ligne du cœur, et où tout le monde ne peut pas s'exprimer. L'extrême droite, je crois, notamment. Bah, ce monsieur-là, qui est le négationniste, n'avait pas à s'exprimer là-dessus. D'ailleurs, il devait pas en parler, voilà. Et puis là, il a manqué à ce parole.
Christophe de Chavannes, vous arrêtez Ciel Montmardi en plein succès. Nous sommes en 92, vous lancez Coucou, c'est nous. Succès également, vous êtes aussi pilote automobile.
Ah, c'est moi, là, je me suis reconnu.
Ouais.
Ah, c'est moi, là, ouais. Ouais.
Ça décoiffe, hein.
Ouais, ouais, ouais.
Vous avez appris seul à piloter. Mmh. En fait, vous avez appris beaucoup de choses.
Sur le tas.
Ouais, beaucoup de choses seul.
À part le permis de conduire, où il a fallu que je passe des épreuves, et le Club Mickey, dont j'ai le diplôme dans mon bureau, avec fierté. Oui, j'ai appris sur le tas tout. Mon métier, mon deuxième métier, qui était la course, faire des enfants.
Vous êtes ce qu'on appelle un autodidacte.
Un autodidacte.
La plupart des autodidactes ont souvent un souci. Ils ressentent, ou on leur fait ressentir, qu'ils ne sont pas légitimes là où ils sont. Mmh. Est-ce que c'est un sentiment que vous connaissez, ça ?
Non, ben non, je suis très légitime à faire mon métier, je suis très légitime à faire la course automobile. Alors, le problème, c'est que il a fallu beaucoup travailler pour que je me sente légitime. Au début, quand j'arrivais dans les paddocks, tout le monde se foutait de ma gueule. Genre, l'animateur vedette qui s'habille, parce que j'étais une vedette à l'époque, l'animateur vedette qui s'habille un pilote, l'autre, voilà, voilà, voilà. Et puis quand j'ai eu un ou deux conseils, pas beaucoup, parce que les pilotes ne donnent pas beaucoup de conseils aux autres, quand ils les jugent dangereux pour eux. Et quand j'ai commencé à faire des pole positions, c'était plus la même limonade. Donc là, j'étais totalement légitime. Mais moi, je m'entraînais en essai libre, en qualif et en course. J'étais doué. Si j'avais commencé très tôt, j'aurais peut-être fait autre chose dans ma vie. Oui.
Vous dites que rares sont les conseils que les pilotes vous donnent. C'est pas que les pilotes, c'est dans la vie en règle générale.
Ah non, moi, je donne deux. À chaque fois qu'on me demande un conseil, je les donne. Oh, bah, oui,
même si vous vous sentez en danger, en concurrence,
en
compétition.
Ah, bah, moi, je suis. C'est pas cavalier de...
Ah mais ça arrive super souvent. Quelqu'un qui a peur de l'ombre qu'on peut lui faire va pas forcément encourager quelqu'un qui pourrait lui piquer sa place plus tard. Quoi.
J'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours donné les conseils que je pouvais donner à qui me les demandait. Mmh. Voilà. On est là pour aider les gens, pas pour en avoir peur. Puis le mec, il commence à avoir peur en disant « Ah non, toi, je vais pas t'aider. »
Vous avez jamais flippé, vous, dans votre carrière ?
Mille fois, oui, mais pas...
C'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence, où on se tire
non,
tout.
Moi, je flippe pas des autres, je flippe de moi.
Ah ouais ?
Bah oui. J'ai plutôt stressé et la pression que j'ai eue, elle était sur moi. Elle était pas de la... Je me mettais pas une pression en me disant « Ah, pourvu que je fasse mieux que machin. »
Pourquoi
fallait
vous
que
mettiez
je fasse
la pression, par exemple, vous ?
Je sais pas. Ça fait partie du TD machin.
Du package TDH.
Ouais, j'imagine.
14h, 15h dans le rétro, on continue notre
C'est pas forcément une bonne chose, hein, pardon, je vous interromps. C'est pas du tout une bonne chose, forcément, de se mettre la pression. Et en plus, il y a des gens qui lui disent « Mais t'es con, regarde, tu cartonnes, qu'est-ce que t'as besoin de te mettre la pression ?» Donc, même en venant faire une émission de radio, il peut m'arriver de transpirer, quoi. C'est mon premier signe de tension. Donc, je me suis essuyé la nuque tout à l'heure dans la bagnole. Non, c'est un drôle de truc, c'est-à-dire, si je me mets dans... parce que ce que je fais, j'ai envie de le faire bien. Concentré, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, allez-y, continuez.
Allez, on continue.
Allez, mon petit bouchon.
14h, 15h dans le rétro, on continue notre voyage avec Christophe Dechavanne sur
plaisir.
France Bleu.
France Bleu, dans le rétro.
Christophe Dechavanne, ce sont des émissions qui ont marqué la télé. Ciel, mon mardi, Coucou, c'est nous, La ferme célébrité, La roue de la fortune et D'une famille en or. Wishlist, The Wall, en 2022, vous prévoyez de faire
primes,
un
les
beau...
Les primes. Il faut en parler des primes, parce que
mais
c'est
on
marrant.
On n'a pas le temps.
Non, mais c'est vrai, parce que pendant, on dit toujours Ciel, mon mardi, Coucou, c'est nous. En ce moment, j'ai fait des années de Sans plus grand, qui était un carton le samedi soir avec ma copine Sandrine Quétier, avec laquelle on s'est amusé comme des fous. C'était la moitié de ma vie, c'était des primes quand même.
Eh ben, vous reviendrez pour parler des primes.
Non. Je l'ai fait maintenant.
Allez, en 2022, vous prévoyez de faire un beau et grand voyage aux États-Unis pendant 2 mois, mais le téléphone sonne.
Allô ? Oui, bonjour madame.
Oui, c'est le producteur de l'émission Quelle époque ?
Ah, vous avez une voix de meuf.
Je voudrais vous proposer de rencontrer Léa Salamé.
Qui ?
Léa Salamé.
Oh non, vous êtes gentil, hein, merci.
En septembre...
Non, ça s'est pas passé comme ça donc. Hein.
En septembre, on découvre la bande-annonce du talk-show de France 2.
Quelle époque sera un lieu de rencontre, de débat avec des invités de tous horizons et à mes côtés chaque semaine... Christophe
Dechavanne. Oui, c'est exact. Oui, tout à fait. Et en ce qui me concerne, je serai une espèce d'invité, mais un petit peu tout le temps, vous voyez, comme une espèce d'invité permanent, comme tu dirais. Un petit peu son bâton de berger. Hein.
Sur le plateau.
Un bâton de berger. Je remercie Léa. Je remercie Régis, qui m'ont empêché de faire mon voyage magnifique aux États-Unis prévu pour 7-8 semaines, mais qui m'ont donné l'occasion de refaire mon métier, parce que quand même, ça me manquait, mine de rien. Ça faisait 2-3 ans que je le faisais plus. Et un jour, j'ai dit à France 2, où ils me disent « Alors, je dis, vous savez, ils ont mon numéro de téléphone, ils ont besoin de moi, ils m'appelleront. » Alors, c'est devenu sur tous les réseaux. « Oui, il se plaint, personne ne l'appelle, nanana. » Je me plaignais pas du tout. Je disais juste « Voilà, c'est pas la peine que je fasse une énième toc-toc-toc à la porte, ou gratter, ou feuler comme un chat en bas du fauteuil d'un directeur de télé. » Donc voilà, j'avais décidé de me barrer. Et effectivement, Régis Lamana Roda m'a téléphoné. Puis j'ai rencontré Léa, avec qui ça l'a fait en 10 minutes. Et on est parti pour cette aventure qui était extraordinaire. Jamais je n'aurais imaginé revenir faire une émission, participer en tout cas à une émission comme celle-là. Et tout d'un coup, voilà, le plus joli écran de la télé, on propose d'y être. Ça s'est installé extrêmement vite, donc c'est une réussite. J'en fais partie, je suis ravi. Et Léa, vraiment, et moi, pour tous ceux que ça intéresse, nous entendons super bien.
Donc on se retrouve sur, sur le plateau de Quelle Époque. Vous retrouvez les mêmes sensations que dans Ciel Montmardi, même si l'époque a changé. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette époque et qu'est-ce qui vous révolte ?
Oh, ça va être court. Alors, qu'est-ce qui me révolte ? Vous avez un peu de temps ? Non, mais sans déconner. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout le monde se plaint de la petite natalité. Je connais incroyablement de plus en plus de gens de quarantenaire qui, même pas question de faire des enfants. Entre 30 et 40, normalement, c'est par là que ça se passe, même 28. Ah non, non, non.
Pourquoi ? Parce qu'on est trop occupé ou parce qu'on a peur ?
Non, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont raison. Regarde, en ce moment-là, tu n'ouvres pas une fenêtre sans que ça sente mauvais quand même. Avant, je disais, quand on ouvre la fenêtre, il ne fait pas beau. Maintenant, je suis obligé de dire, quand on ouvre la fenêtre, ça sent mauvais. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit est désagréable. Quand on branche la télévision, c'est inimaginable. Après tout ce que ma mère m'a dit, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, pour qu'on ouvre la télé aujourd'hui, en entendant des gens... Voilà, il y en a qui exagèrent, hein. Et puis il y en a qui jouent dessus surtout. Mais le mot guerre mondiale, on l'entend 20 fois par jour. Est-ce qu'il y a 3 ans, quelqu'un se serait dit, le mot guerre mondiale va revenir dans notre vocabulaire ? Non, mais c'est un truc de ouf. Donc non, on peut pas dire que la période d'aujourd'hui soit très très cool. Et oui, évidemment, la période où j'ai fait Ciel Montmardi était bien plus simple. Pour de simples raisons, c'est que je pouvais faire Ciel Montmardi. Aujourd'hui, je ne pourrais pas. Entre les réseaux sociaux, les règles, l'ARCOM, on ne pourrait pas faire Ciel Montmardi, point.
Trop de règles ?
Oui, on n'a plus le droit, par exemple. Moi, il m'est arrivé tout à fait par hasard dans des débats que tout d'un coup, dans le public, se trouve quelqu'un qui venait témoigner contre une personne qui disait des insanités ou des conneries sur le plateau. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit. Chaque intervenant d'une émission doit tout à fait être au courant de qui est dans le débat.
Parce qu'il y a... Ça limite le débat,
ben,
finalement.
Forcément, puisque vous dites un type venait, mais il y aura machin, le type, ah ben non. Il n'y a pas, finalement. Mais c'était formidable. Et puis, c'était une époque, surtout, où on se marrait comme des baleines. Aujourd'hui, quand vous sortez d'une émission, ou même quand je vais à d'autres émissions, ça m'arrive, je vois, une fois que l'émission est finie, bon, ben, ils ferment leur cartable, ils rentrent chez eux. Nous, on faisait la teuf dans la loge pendant 2 heures. Enfin, c'est pas la même...
C'est une autre époque.
En même temps, c'est beaucoup plus stressant, pardon, mais...
Vous faites gaffe ? Vous faites gaffe parce que c'est vrai que vous êtes plutôt grande gueule, vous plaisantez sur plein de choses...
Je fais gaffe à...
Vous faites gaffe à ce que vous dites, à ce que vous faites, à comment vous
forcément.
Vous comportez.
Oui, forcément. Enfin, vous voulez dire à la télé ?
À la télé,
ah non,
ou dans la
vie.
Rue, j'en sais rien.
Non, là, ça va, je vous dis à peu près ce que je pense. Là, j'ai pas de... je fais gaffe, tu veux dire, pour pas me casser la gueule avec quelqu'un ?
Par exemple,
bah oui,
ou même,
oui,
ou non, mais vous pouvez vous faire démonter
sûr.
Par les réseaux sociaux, vous faire
non,
laminer.
Alors ça, moi j'ai quand même de la chance parce que j'ai pas beaucoup de haters sur Twitter. Je sais pas, je l'ai fait tout seul, on doit être 250 000. Et c'est plutôt des bons camarades. Donc, et puis qui écrivent correctement, il n'y a pas une faute d'orthographe par ligne. Enfin, c'est plutôt ça. Oui, je félicite mon groupe de... Mon groupe
de
camarades, ouais, de followers sur Twitter, c'est oui, parce qu'on a vraiment un bon contact et puis ils sont très sympathiques. On pense pareil en fait, donc on s'entend bien. J'ai des followers. Ce mot m'emmerde, la bienveillance, parce que il y en a beaucoup qui l'emploient.
Pourquoi ce mot vous emmerde ?
Parce qu'il est mis à toutes les sauces maintenant, bienveillant. En plus, moi, je l'adorais, ce mot. Donc, je trouve qu'il est galvaudé, on s'en sert à toutes les sauces. Et principalement même, souvent, par des gens qui ne le sont pas eux-mêmes. Pardon, hein, je réagis. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on est dans le métro.
Si.
Dans le métro, il faut y aller. Hein.
Mais c'est pas dans le métro, c'est dans le rétro.
Mais moi, on m'a toujours dit, tu vas dans une émission qui s'appelle Dans le métro. Pour moi, je suis dans le métro, voilà. Ça ressemble pas du tout à un métro, hein, cela dit. Bref, on en était où ?
Je ne sais plus.
Il n'y en a pas un qui suit.
Non, si je vous disais que c'était des gens bienveillants.
Followers, ils suivent. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis follower. Ah, et qu'est-ce que tu fais ? Ben, je follow. Ah, mais c'est bien ça. Et alors, ça rapporte ? Non. Et c'est bien ? Oui. Et comment tu dis maintenant ? On ne dit plus Twitter, on dit X.
Alors, ouais, on dit X.
Mais on dit j'ai tweeté ou j'ai Xé ?
Oh, j'en sais rien.
Non, mais j'ai Xé ? C'est ridicule. Putain, j'ai Xé ce matin, j'étais foudrage. Hein. J'ai Xé un truc, là.
Vous êtes dingue.
Et je vous l'ai dit. Non, mais je suis venu pour ça. Hein.
Oh, putain. tête.
C'est pour ça que vous êtes parti sur... Alors votre père était amputé, il lui manquait trois bras, il n'avait plus de dents, il buvait par l'œil. Je suis parti sur autre chose, sinon je me suis dit on ne va pas s'en sortir.
Bon, Christophe de Chavannes...
Non, c'est pas moi. Ça n'est pas moi. Vous vous adressez à quelqu'un d'autre.
Louis de Funès.
Non, arrêtez. Tu mens. Tu mens.
Dans votre autobiographie Sans Transition, vous parlez du papa que vous êtes aussi. Vous devenez papa en 1987.
Oui,
ça, c'est Pauline. En 1990, ça, c'est Paul-Henri. Et en 1998, ça, c'est Ninon. Vous, vous êtes de la team, on garde la surprise du sexe de l'enfant.
Ouais.
Il y a une raison à ça.
Ça a été ma...
Encore maintenant?
Ça a été mon combat à la télé. Hein. Mais j'étais très militant sur l'idée que c'est la plus belle surprise du monde, en vrai. Il n'y en a pas d'autre. Il y a 3000 surprises, mais celle-là, c'est la plus belle. À part, et hormis, le fait que si les parents veulent absolument un garçon, alors il vaut mieux qu'ils sachent à l'avance, qu'ils se préparent un peu le bazar pour pas que le truc arrive en faisant « Oh putain! Oh non putain! Ah oh, tu m'as fait un garçon! Mais que t'es con !» Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, c'est atroce.
Voilà, donc il vaut mieux se préparer. Sinon, si on est prêt à accueillir la nounou, ce qui est quand même la majorité des gens, et tant mieux, c'est de garder la surprise, parce que quand on sort le machin et que vous dites « Ah, c'est un garçon !» Non, ça c'est le... Ça, c'est le cordon. Ah, mais ça fait rien. Je la garde quand même. Non, mais vous voyez, et puis vous êtes content, et puis c'est une surprise. Et puis pendant que maman était à la maternité, eh ben, vous vous faites chier à vous faire les peintures, les couleurs, le lit qu'il faut et les machins pour un garçon et non pas pour une fille, voilà. Parce que mon père m'avait raconté une histoire fort triste. Il avait eu un bébé qui était mort-né. Ils avaient préparé toute la piole et ça a été terrible. Parce que, la piole, quand ils sont rentrés, elle est restée vide. Donc ça, c'est affreux et c'est la raison pour laquelle je pense, comme quoi, c'est tout ce qu'on nous imprime, mine de rien, qui nous font réagir après, parce que inconsciemment, c'est ce qui m'a fait militer pour ne pas connaître le sexe du bébé. J'en ai eu trois, et les trois, j'ai réussi à...
garder la surprise.
Ah, mais moi, je disais au radiologue qui faisait l'échographie, je ne veux pas qu'on sache, et quand la mère tournait la tête, je fais non, rien de par là. Parce que c'est trop bien comme surprise.
Il n'existe rien de plus difficile au monde qu'élever des enfants, et pour peu qu'on les aime, c'est un drame absolu.
Bah oui,
qu'est-ce que vous dites ?
Bah oui, c'est un emmerde du matin au soir, 7-7-364-4, parce qu'on flippe tout le temps, parce qu'on a peur, parce qu'on pense à eux, est-ce que je fais bien ? Hein ? Est-ce que c'est bien ? Hein ? Est-ce que lui va bien ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais pourquoi il n'est pas là ? Mais il est où ? Mais tu sais pas avec qui il est ? Mais il t'a pas téléphoné ? Mais voilà, non, c'est toute la vie. Ah, il a eu deux. Pourquoi il a eu deux ? Sur combien ? Sur 20. C'est pas beaucoup.
À vous écouter, c'est invivable, on n'en veut pas. Hein.
Et ben voilà. non, mais. Et alors, je veux dire, j'ai entendu un type célèbre, et j'ai oublié son nom malheureusement, qui disait un jour « Je suis en béatitude devant l'ingratitude de mes enfants ». On donne notre vie, mais en vrai, hein,
vrai.
Pour le coup, je l'ai fait tout seul, quelquefois c'est partagé en couple souvent, moi je l'ai fait tout seul pour la dernière qui a aujourd'hui 25 ans. On leur donne tout, quoi. On leur donne notre énergie, on leur donne notre amour, on leur donne notre inquiétude, mais nous sommes ingrats avec nos parents, ils font la même. Hein. Et nos parents ont été chiants avec nous, on fait la même.
Ouais. Voilà. On leur donne trop ?
Alors moi, j'ai un moment où il y a un moment, j'ai un peu déconné sur le... Ah, on donne trop. Matériellement, vous voulez dire ?
Les deux, à tout niveau.
Ah, on donne jamais assez d'amour, non. Ça, si vous aimez vos enfants, dites-leur. Mmh. Si vous les aimez pas, ne leur dites pas. Dites-leur que vous les aimez, c'est mieux.
Christophe de
Chavannes. Non, il faut tout dire à son enfant, t'imagines ? Attends, Christophe, il a dit à la radio, faut tout dire. Oh, t'as eu ta gueule ? Hein ? Non.
Non, mais nos enfants ne sont jamais moches.
Oh,
ah bah non.
Oh, les miens Je vous embrasse si vous entendez votre père là.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Quelle heure il est là ? Je suis perdu.
Mais vous inquiétez pas, on a le temps, on traverse.
Mais bien sûr, t'en fais cette feuille. Eh bien, bis accroché des projets pour tes allons-y. Non.
Dans votre livre Sans Transition, il y a
deux. C'est pas mon livre. Si, c'est mon livre, Sans Transition, c'est moi.
Je
Christophe
craque.
De Chavannes ? Ah, c'est moi. Oh, mais attends, depuis tout à l'heure, je pensais qu'on faisait l'interview de Laurent Terzieff, moi. Je suis complètement largué. Bonsoir, madame.
Je craque, je craque.
Ouais,
non,
je
mais
sais,
voilà,
je plais
craque.
Beaucoup. Je plais beaucoup.
Dans votre livre Sans Transition, il y a toutes ces personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Vos parents, votre sœur, votre meilleure amie. Et il y a cette garce qui vous fait flipper. Cette garce, c'est la mort.
Ah, vous m'avez fait peur. Oui. Non, mais j'en ai jamais eu peur de ma vie, parce que j'ai fait n'importe quoi.
Bah,
donc,
c'est ce que j'allais dire.
J'étais pilote d'hélico, je me mettais à l'envers, pas tout à fait. Et j'ai fait de la course automobile, j'ai eu plein de cartons, j'ai roulé vite.
Donc vous n'en avez pas peur ?
Je faisais un petit récap.
Ah, pardon.
Et petit à petit, mine de rien, on en est de moins en moins loin. Donc, j'en ai une peur bleue de manière quasi pathologique sur l'hypocondrie. Pour le reste, physiquement, je fais encore le con, mais bêtement, parce que, par exemple, j'ai eu un gros trauma crânien dans un gros accident en 2012. Il m'est interdit d'en avoir un deuxième, pour plein de raisons. Et si je me refrappe la tête, c'est moi qui ai fait ce petit rendu ?
Ce petit gargouille, ouais.
Ah, pardon, c'est un petit problème de plomberie.
On va le garder au montage.
M'excuse bien, je vous en prie. Ouais. Appelez, allô ? Allô ? Oui, qui c'est ? C'est plombier. Ah, c'est beau studio France Bleu, vous voyez ? Dans le métro. Oui, venez ! Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Vous faites n'importe quoi, hein ?
Oh, j'en peux plus.
Ah, oh, qu'est-ce qu'on disait ? Écoutez, qu'il y a un petit peu de suivi dans le propos.
Non, mais que sur la mort, justement, ça venait un
sur
peu avec le
mort.
Temps.
Ah, sur la vie de maman. Non, mais sur ta mort, tu vas voir. Ah non, c'est des gitans qui s'engueulaient en disant « mange tes morts ouais. ». Ça, j'ai jamais compris. Amis gitans qui nous écoutaient, pourquoi vous dites « mange tes morts » ? C'est très courant, c'est « mange tes morts », c'est quelques jeunes musulmans qui sortent aussi « nique ta mère ». Mais c'est pas pareil de manger ses morts et de niquer sa mère. Enfin, je veux dire, il faudrait faire une étude et une émission là-dessus. Amis du dimanche, bonjour. J'espère que la messe s'est bien produite et que vous êtes allés à Vêpres. Quelle heure il est ? En vrai,
Christophe
là.
De Chavannes, bah, c'est bientôt fini.
Non, mais
là.
Il est à peu près 15h. Ouais. Ah oui, donc ils ne sont pas encore sortis de Vêpres.
Christophe De Chavannes, dernière escale maintenant.
Non, il y avait une question, mais vous voyez, on ne peut pas suivre. C'est incroyable. Bordel, cette émission, alors. Ah, des oiseaux encore. Tuit, 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 tuit. Ah, encore. Oh, mais viens ici, toi. Pon. Non, c'est fini, je ne chasse plus.
C'est l'été, nous sommes dans un jardin, il y a là un rosier, le rosier de Chavannes. Oui, vous avez une rose qui porte votre nom, une rose raffinée, couleur champagne, au parfum anisé. Chaque couleur a sa signification.
J'aime beaucoup l'odeur de l'anis.
Si cette rose devait vous représenter, quel qualificatif vous choisiriez ?
Oh bah écoutez, elle me représente un peu, parce que j'en
alors
ai choisi
quoi,
trois.
La douceur, l'élégance.
J'aimerais qu'elle sente un tout petit peu plus fort, mais elle est très élégante, elle est très jolie, elle est remontante, ça veut dire qu'il y en a plein tout le temps. Je suis très fier d'avoir une rose, parce qu'on ne l'a pas comme ça. On m'a testé un peu sur mon amour des fleurs, etc. J'ai un joli jardin, parce que j'aime beaucoup les fleurs, c'est mon petit côté féminin. Mais je ne sais pas coudre, le mec qui va se faire défoncer.
Christophe De Chavannes, ce voyage touche à sa fin.
Ah, ce jour-là, j'étais pas très en forme, je me souviens.
Ça va, vous débrouillez bien.
Je m'étais pété l'index et la nuit.
Non, vous jouiez sans les mains, là, non ? Avec les pieds ?
Non, c'est de l'orgue qu'on joue avec les pieds. Mmh. Vous savez ça ?
Non, mais là, ce qu'on entend, c'est les notes du pianiste Weissenberg. Mmh.
Alexis, de son prénom.
Exactement. Lors de votre première interview télé à 16 ans, à la question « Qui aimeriez-vous être plus tard ?», vous citiez ce pianiste. Et on va terminer avec ces mots de Coluche et se rappeler ce complexe que vous aviez dans la cour de récré par rapport à votre taille. Dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre.
Écoutez, c'est Coluche, elle est très bonne. Comment s'appelle-t-il ce bouquin dont vous me parlez depuis tout à l'heure ?
Il s'appelle « Sans transition ».
Qui c'est-il qui a fait
ça ? Christophe De Chavannes. Et donc je vous remercie fortement.
C'est vrai ?
C'est l'histoire d'un animateur, agitateur, agité, amuseur, déconneur, qui a diverti toute une génération. C'est son parcours, sa vie, ses interrogations, ses contradictions aussi qui font qu'il est sans filtre, sans transition de Christophe De Chavannes aux éditions Flammarion. Merci à tous de votre fidélité. Dans le rétro, le podcast dispo à tout moment. Prenez soin de vous. Salut, merci Christophe.
Et au revoir à tout le monde aussi, bien sûr. Et vous aussi. Bisous.
Bisous, bye bye, au revoir.
Ciao.